Alors bonjour et bienvenue à toutes et tous dans votre émission de l'été, les Faramineux. Alors avec moi aujourd'hui, bien, j'ai le grand plaisir de recevoir Géraldine Saussier qui est autrice, compositrice, interprète. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Quel plaisir, j'ai déjà eu le plaisir de te rencontrer dans une autre émission que je faisais, donc ça me fait doublement plaisir de te recevoir aujourd'hui. Que tu sois dans les premières à être en studio, ça fait du bien. Donc elle va nous parler de ses différents projets, d'un prochain album en devenir et puis plein de choses qu'elle fait, elle est hyper intéressante. Par contre, on va passer à mon chroniqueur, donc Jean-Sébastien Laliberté, qui est responsable de la technique à la radio, et sera mon chroniqueur du jour. Il va nous parler des moments Schadenfreude qui portent sur certains récipiendaires des prix Darwin. Alors, laissez-moi vous dire, pour la petite explication, que Jean-Sébastien Laliberté, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, a ce qu'on appelle un visage d'ange. Hein. Il a une tête de gendre idéal. Et avec cette tête de gendre idéal, eh bien, il va vous raconter des horreurs, je m'en excuse d'avance, mais c'est aussi très très drôle et extrêmement pertinent. Voilà. Donc, en fait, je lui ai demandé parce que moi, quand je le regarde, le contraste est tellement intense que j'en ris d'avance et je suis très bon public. Et tu vas voir, Géraldine, toi aussi, ça va t'amuser.
J'aime bien, hein.
Ah bah oui, mais ça va être fait. Et pour ce faire, et pour introduire la chronique, nous allons écouter Félix Leclerc qui nous chante « Attends-moi, Tiga ».
La voisine arrive nous autres, parce qu'on avait 12 enfants, pour changer son fusil d'épaule, depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, Tiga, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre casser le cou. Le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son valet qui a le génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Parce que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. On me dit va à droite, c'est à gauche que je m'attelle. Pour qu'aux enfers on rejette, on s'en verra peut-être au ciel. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Couplet censuré. La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand monsieur le curé raconte que la paroisse est pleine d'impies, c'est pas à cause des péchés, c'est que les dîmes sont pas payées. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Alors, roulement de tambour, mesdames, messieurs, Jean-Sébastien Laliberté pour sa chronique, que je te laisse nommer de nouveau parce que je l'ai fait une fois, c'était déjà assez compliqué.
Quelle introduction. Chronique Schadenfreude. Merci Arlette. Alors, je vais commencer d'abord par Schadenfreude. Qu'est-ce qu'est ce mot?
Oui.
C'est une expression allemande qui signifie joie malsaine que l'on éprouve en observant le malheur d'autrui, un petit peu comme Félix Leclerc nous le chantait à l'instant.
Donc, et comment on va le faire avec toi dans un instant?
Alors, on retrouve dans ce mot-là les termes Schaden et Freud. On va y aller avec l'explication étymologique. Tant qu'à y être, Freud qui signifie joie et Schaden qui signifie du dommage ou blessé. Donc, littéralement, se réjouir du malheur d'autrui ou éprouver un malin plaisir. Si vous avez déjà regardé des émissions de compilation de vidéos style drôle de vidéo, LOL, America's Funniest Video, ça c'est drôle, vidéo gag, bref, il y en a plusieurs, ou encore des compilations sur YouTube de gens qui chutent, de gâteaux, de mariages qui tombent sur les mariés ou de gens qui chutent encore, vous avez éprouvé ce sentiment, une situation où le malheur des victimes entraîne le rire. Et pour vous parler de Schadenfreude, tu l'as dit en introduction, Arlette, je vous parle un petit peu de Darwin, Charles Darwin.
Ah, ça, c'est extraordinaire.
Le père de la théorie de l'évolution, selon laquelle les espèces doivent s'adapter ou disparaître. Et on va s'intéresser à ceux qui ne se sont pas bien adaptés. Grâce au prix Darwin, les fameux Darwin Awards, tel sera le fil thématique de ma série de chroniques Schadenfreude pour cet été. Le petit historique des prix Darwin, à l'origine, ce sont des histoires regroupées par Wendy Northcutt, une universitaire en biologie de l'université de Stanford aux États-Unis, début des années 90. Et le titre fait bien sûr référence à Darwin, auteur du texte fondateur de la théorie de l'évolution, parce qu'on dit que les lauréats de ces Darwin Awards ont contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Rien de moins. Pour mériter ce prix, il faut, y a 5 critères. Donc, il faut être en incapacité de se reproduire, soit être mort de sa bêtise ou être devenu stérile suite à l'événement. C'est le critère sélection naturelle. Deuxième critère, l'excellence. La personne candidate doit avoir un jugement étonnamment stupide. Donc, le facteur « wow », ça ne doit pas être quelque chose de banal. Dans les choses qui ne sont pas admissibles, justement, parce que ça s'en est devenu banal...
Je peux faire une proposition?
Vas-y.
Non, pas tout de suite, la première antenne.
Donc, jouer à la roulette russe, on s'entend que c'est pas l'idée du siècle, mais ce n'est pas admissible. Se noyer sans veste de sauvetage, s'endormir en fumant au lit et causer un incendie non plus, tomber d'un sommet en prenant un selfie, chose qu'on entend de plus en plus parler, ce n'est pas assez exceptionnel. S'électrocuter en faisant pipi sur une clôture électrique, comme mon cousin m'a mis au défi d'essayer à l'âge de 6 ans. Boire beaucoup trop d'alcool ou encore pratiquer des sports extrêmes. Les sports extrêmes, on s'entend que ça vient avec son lot de risques, d'où leur appellation de sport extrême, mais vu que c'est pratiqué de façon consentante, on s'expose au risque, donc ce n'est pas une bêtise à proprement parler. Troisième critère, l'autosélection. Il faut être la seule victime de sa grossière incompétence, donc il ne faut pas blesser ou tuer autrui. Il faut également avoir l'âge de la raison, c'est-à-dire être adulte. un peu plus que ça, donc il faut être légalement apte. Donc on ne parlera pas des enfants et des adultes qui ont des tuteurs légaux. Et enfin, la véracité, ça doit être vrai, avec témoins à l'appui et couverture journalistique qui aurait confirmé l'événement. Donc on ne parlera pas de ces légendes urbaines parce que ça aurait pu faire l'objet de sa propre chronique. Assez de préambule, on y va tout de suite avec une première histoire. Ben oui, être au mauvais endroit au mauvais moment. Tout d'abord, en février 1990, à Washington, un voleur, dont c'est vraisemblablement le premier crime, car il n'avait pas de dossier criminel, et surtout pour la façon dont il a opéré son crime. Il est allé en plein jour tenter de voler un armurier. Donc on parle d'un magasin où on vend des armes à feu. Le commerce était bon des clients qui portent une arme à feu, puisqu'on est aux États-Unis.
Ah oui, rappelons-le.
On a le droit de porter l'arme aux États-Unis, y compris dans les armuriers. Le voleur a dû, pour entrer dans le commerce, contourner une voiture de police qui était stationnée devant la porte. Le policier était au comptoir en train de parler avec le propriétaire. Donc cet apprenti cambrioleur entre, déclare « c'est un hold-up », bang-bang en tirant en l'air. Le policier, le propriétaire, les autres clients ont tous dégainé et tiré sur le criminel qui fut la seule victime ce jour-là. On félicite cet Arsène Lupin.
Excellent!
On change de domaine un petit peu, les distractions au volant. On le sait qu'avoir son cellulaire au volant, c'est non seulement interdit et passable d'une amende, on sait qu'il peut se passer des choses quand même assez atroces.
Là, avant que tu commences, on peut aussi causer des dommages à quelqu'un d'autre.
Mm-hmm. Ben oui, absolument. Donc, quand on a son cellulaire au volant, ben c'est ça, on risque de ne pas être la seule victime de son inattention, parce que bon, c'est une distraction pour les yeux, parce que les yeux, lorsqu'ils sont rivés sur l'écran, vraisemblablement, ils ne sont pas fixés sur la route. Mais bien avant le téléphone, il y avait d'autres façons de se mettre en danger derrière le volant. Floride, 1993, un jeune vendeur de 24 ans perd la vie au volant de son véhicule sur l'Interstate 95 en allant s'écraser sur un poteau de la bande du milieu de l'autoroute. Bon, là où sont les gros lampadaires. Il roulait à 80 miles à l'heure, c'est-à-dire environ 130 km/h.
Quand même.
Et plutôt que d'être attentif à la route et aux autres véhicules, il jugea qu'une meilleure utilisation de son temps était de lire un manuel de vente qui fut retrouvé écrasé contre sa poitrine par l'impact. Si ce n'était pas
J'ose même pas en rire, mais c'est très drôle.
Si ce n'était pas le titre d'un livre d'Arthur Miller, j'aurais appelé cette histoire-ci Chronique d'un la mort d'un commis voyageur.
Excellent.
Dans un même ordre d'idées, on parle depuis quelques années de ces voitures autonomes qui se conduisent pratiquement seules et qui auraient de meilleures réactions pour éviter des meilleurs temps de réaction pour éviter les accidents que les humains. On a sans doute entendu parler au fil des ans de la personne qui n'était pas assise derrière le volant, mais qui était dans le siège du passager, celle qui était en état d'ébriété ou encore qui dormait pendant que la voiture roulait. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Toujours dans les années 90, en Floride, 1991, le 23 décembre pour être très précis, et ça c'est une histoire qui nous a été rapportée par le National Transportation Safety Board, qui est l'équivalent ici au Canada de Transport Canada. Nous sommes à bord d'un Piper PA-34-200T, immatriculé N47506, c'est un avion bimoteur 6 places. La pilote et le passager, également pilote, sont dans les airs pour une simulation de vol par instrument. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai aucune idée ce que c'est, je ne suis pas pilote, mais bon, c'est une chose qui existe de faire des exercices de vol par instrument. Donc, des passants aperçoivent l'avion basculer du côté droit, en chute libre, puis s'écraser. Après l'étude de l'appareil, il fut conclu que le siège du passager était en position horizontale, qu'aucune ceinture ou harnais de sécurité n'était portée.
Qu'est-ce qu'il faisait?
Et que le crash n'était pas la cause de leur nudité partielle. La pilote a donc pris la décision de mettre son attention sur une activité autre que celle du pilotage de l'avion.
Ben, ce sera son dernier.
Le positionnement de l'avion dans l'espace aérien et les lois de la physique ont provoqué une malfonction du système de vol du bimoteur. En d'autres mots, les gens batifolaient sans que personne ne pilote l'avion, qui a fini sa chute en s'écrasant. C'est ce qui s'appelle s'envoyer en l'air, mesdames et messieurs.
Quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur de finir comme... Quoique, ils ont fini dans la joie, enfin du moins, je l'espère.
Et oui. Et vraisemblablement, ça sera la fin de ma chronique parce que j'ai oublié d'imprimer la sixième page. Mais écoutez, on va s'en garder pour les prochaines fois.
Ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était très, très drôle. Moi, j'ai un petit peu, légèrement, très, très légèrement, honte d'en rire, mais c'est très drôle. Franchement,
merci.
Bravo. Bravo. Jean-Sébastien?
Oui.
Tu peux revenir en deuxième semaine.
Yes!
Ça va bien. T'es parti.
Check.
On part en musique.
Avec Cœur de Pirate.
Et avec Cœur de... Ah oui, oh, Cœur de Pirate. Bah alors, après ce que tu viens de finir, Cœur de Pirate qui chante Plan A3. Excusez-moi, c'était déjà noté sur ma feuille avant le final de Jean-Sébastien.
Encore un matin où tu pars, la porte se referme et tu ne reviens que ce soir. Tu ne laisses qu'une tache dans mes draps, c'est l'effet sur ma vie que tu as. Je sais, j'ai les flots de la veille dans mon sang, ça m'apaise. Ce va-et-vient que tu fais, je le sais que tu vis entre moi et elle. Mais tu y retourneras, ce sera la dernière fois que mon songe m'habite et je n'y vois des leurs. Tu danses de plus belle dans ses bras. Je ne fais que marcher dans ses pas. Je sens les effluves de la veille qui délègent mes conseils. Ce va-et-vient que l'on trace, tu le sais, j'en ai marre de toi et elle. Mais tu y retourneras, ce sera la dernière fois que mon cœur.
Bon, alors justement, je ne veux pas revenir sur le titre de cette chanson, mais ça m'a beaucoup fait rire suite à ta dernière histoire, Jean-Sébastien. Et merci encore pour ta première chronique, c'était une réussite. Ma petite Géraldine Saussier, à qui on doit dire félicitations. Alors on va faire 1, 2, 3. Voilà, parce qu'elle est diplômée de l'École nationale de la chanson. Yes. Alors, raconte.
C'était le fun. C'était vraiment très enrichissant, en fait. J'ai beaucoup appris. Puis j'ai quand même exploré au niveau de ma direction artistique, de où je voulais aller comme autrice, compositrice, interprète.
Alors, où tu veux aller?
Ben, je pense que je vais m'en aller plus dans un côté folk rock, là, un peu. Je savais pas que j'avais une rockeuse en moi, mais je l'ai trouvée cette année. Fait que oui, c'est ça. C'est quelque chose que j'avais pas encore trouvé, mais que je trouve vraiment intéressant d'explorer avec plus de beats, des drums et tout.
Comment tu l'as découvert, en fait?
En fait, c'est que je faisais un texte, j'ai écrit un texte de chanson très engagé en lien avec tout ce qui s'est passé avec MeToo l'été dernier. Puis mon prof, on a eu des cours d'interprétation avec JP Dalpé. Puis il voulait vraiment...
Oui,
tu le connais?
Oui.
Puis on a beaucoup exploré comment on voulait donner cette chanson-là, en fait, l'interpréter. Puis j'ai voulu l'interpréter plus dans une façon où je sortais de ces difficultés-là et que je ressortais comme une femme... forte, une figure forte. Donc, c'était quelque chose qui m'a beaucoup inspirée dans l'écriture de mes chansons, en fait, d'aller dans des textes engagés, mais de façon forte, d'être un beau message, là, de puissance un peu.
Oui. Et donc, le rock entourait bien ce texte.
Oui. Ben en fait, c'est comme folk rock.
D'accord.
Donc, ça va être à voir quand je vais sortir mon prochain album, là, où on s'en va. Mais oui, c'est ça. Je m'accompagne beaucoup plus maintenant à la guitare. La dernière fois que j'étais venue, j'avais un guitariste. Mais maintenant, j'ai beaucoup exploré mon jeu.
La dernière fois, elle était beaucoup plus riche. Donc, elle avait son guitariste. Cette fois, avec la pandémie, il y a eu des soucis. Donc, là, elle a appris à jouer. Non, je te plaisante, excuse-moi.
Non, mais c'est vrai. En fait, c'est que je suis diplômée, fait que maintenant, je suis capable de mieux jouer, là, de m'accompagner moi-même. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé à l'école, puis de travailler beaucoup les textes, et c'est ça.
Alors, tu es sur un prochain album?
Je travaille dessus. Je pense que je rentrerai peut-être en studio en l'automne, mais ça va prendre encore au moins une bonne année avant qu'on puisse sortir ça.
Comment ça se passe pour toi, pour ton écriture? Est-ce que tu es dans... Tu as plein d'écrits un peu partout, dans des tiroirs, par exemple, et puis que tu cherches les musiques ensuite, ou l'inverse, ou en même temps, comment ça se passe pour le montage d'un album? C'est jamais pareil pour chaque individu, chaque musicien, chanteur ou chanteuse.
C'est vrai, c'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, c'est plus les textes qui m'inspirent, vu que je suis aussi poète, donc les mots, c'est très important. Et pour moi, c'est quelque chose que je donne une grande importance, puis que je mets beaucoup de temps. Donc, Habituellement, j'écris les mots avant et après la musique. Mais tantôt, je vais vous faire une chanson où j'écris... C'était vraiment différemment, là. J'ai écrit en même temps. Puis ça a sorti un texte un peu plus léger, un peu plus drôle. Donc, je trouve ça intéressant d'explorer les différentes façons que je peux créer, justement, de trouver. Il y a aussi une façon que j'ai écrit une chanson où je me suis donné un 3 heures, puis il fallait que j'écrive 5 chansons en 3 heures.
Wow!
Mais elles sont pas toutes bonnes, mais il y en a une qui est ressortie de ça, et je l'ai retravaillée, puis je suis fière. Donc, c'est ça, je trouve ça intéressant comment on peut explorer, comment la créativité arrive, dépendamment de comment on la travaille, en fait.
Et dans ton album à venir, est-ce qu'il y a une ligne directrice dans l'histoire ou c'est chaque fois différent?
Mais en ce moment, je travaille beaucoup justement sur des textes qui parlent des femmes ou sur des sujets un peu tabous par rapport à la féminité. Donc, à voir si mon album va vraiment tourner autour de ça. Mais en ce moment, c'est beaucoup ça qui m'appelle ou qui m'interpelle. Oui.
Alors justement, si c'est ça... Je vais demander à Jean-Sébastien de venir avec nous un petit peu au lieu d'être dans la lune de son côté et de faire le côté, le pendant des questions plus masculines, dirons-nous, qu'il pourrait y avoir suite à ce que tu as entendu.
Non, moi, je suis plus pour l'instant sur son processus d'écriture. Ben, je me demandais, là, quand tu parles de... Les textes sont plus importants pour toi. Est-ce que le rythme des mots va influencer la structure de la chanson? Ou est-ce que tu vas trouver une mélodie sur laquelle tu vas mettre ta poésie sans forcer, disons, les mots à une certaine rythmique?
Mais habituellement, qu'est-ce que je fais, c'est que souvent les mots, naturellement, vu que j'ai quand même écrit depuis quelques années, ben j'ai quand même une habitude que le piétage soit assez uniforme ou que la rythmique des mots soit déjà là. Je vais regarder aussi pour que ça rime. Mm-hmm. Puis à la suite, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer mon texte ou je vais, s'il est dans mon cahier, je vais le mettre devant moi. Et je fais des accords sur ma guitare. Tu sais, je niaise un peu sur ma guitare pour essayer de trouver des trucs qui sonnent bien. Puis souvent, c'est comme l'inspiration du moment en lien avec qu'est-ce que j'ai écrit. Donc, j'ai l'impression que le message est comme déjà là. Puis après, c'est comment, par la musique, je veux transmettre ce message-là que j'ai écrit.
Good.
Qu'est-ce que tu as fait? Quel changement il y a eu entre Géraldine du premier album et de celui qui arrive aujourd'hui? Quel chemin t'as fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton écriture? Est-ce que t'as gardé... Je parle pas des sujets, hein, je parle de l'écriture même.
Je crois que j'ai pris beaucoup... plus confiance en qu'est-ce que je faisais puis en qui j'étais, puis justement de me présenter sur la scène culturelle plus comme une image forte. T'sais, je crois que c'était mon premier album en 2019 quand c'était vu, puis j'avais encore une certaine gêne ou une certaine réticence à être confiante dans qu'est-ce que je faisais. Mais
à te montrer,
ouais,
on va dire.
Ouais. Mais à l'école, j'ai trouvé ça un peu à l'intérieur de moi que je pouvais peut-être être fière de qu'est-ce que je présentais, puis du moins croire qu'il faut que moi je croie en moi si je veux que les autres y croient. Oui. Aussi à mon projet, donc de croire en moi puis d'être plus forte par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose
les réactions que qu'il y a eu à l'école autour de toi ont été quoi? T'ont fait du bien? Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que de travailler en binôme ou à 3 ou à 4 ou je sais pas comment vous faisiez, est-ce que ça a changé des choses? Donné une nouvelle couleur peut-être aussi?
Oui, surtout qu'ils nous font sortir beaucoup de notre zone de confort, donc ça c'est sûr que ça nous fait trouver d'autres couleurs. On travaille avec, tu sais, des fois on écrit des chansons en tant qu'exercice avec d'autres étudiants, donc ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort, puis de trouver d'autres chemins, comme tantôt on parlait les chemins de création. Oui. Ben justement, trouver d'autres chemins, pas toujours la même façon, puis quand on utilise des différents chemins créatifs, ben ça nous amène à différents types de chansons. Tu sais, comme tantôt je parlais de ma chanson un peu plus légère, ben peut-être que j'aurais pas écrit ça si j'avais pas utiliser un autre chemin créatif.
D'accord. Et quand tu suis des cours comme ça, est-ce qu'on te demande d'être, par exemple, tu vas aider quelqu'un d'autre, tu participes, donc tu dois voir le personnage tel qu'il est écrit un petit peu pour lui. C'est plus compliqué, c'est des choses que tu as fait ou tu as toujours écrit que pour toi?
Mais là, je commence à écrire. J'ai fait des ateliers aussi avec l'ASPAC, qui est la Société des auteurs-compositeurs du Québec. Et j'ai commencé à écrire un peu pour d'autres. C'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, j'aimerais bien écrire pour les autres. En ce moment, je ne l'ai pas encore fait.
Tu ne l'as pas encore essayé à l'école, c'est ça que je voulais savoir.
Non, pas à l'école.
Non, d'accord.
Mais j'aimerais bien faire ça éventuellement, oui.
Oui, parce qu'il faut, avoir la personne en face de soi, avoir le comment on la ressent, et puis savoir ce qu'il, elle, aime ou le touche le plus pour pouvoir faire une chanson. Ça ne doit pas être si évident que ça.
Non, mais
faire une chanson pour quelqu'un d'autre, j'en sais rien, j'écris pas moi. Donc, mais j'imagine que c'est pas si évident que ça.
Se mettre dans
Qu'est-ce
la
t'en
peau
penses,
de l'autre,
toi, Jean-Sébastien? Parce qu'il me fait des grimaces derrière la vitre, mesdames, messieurs, et puis il faut le savoir. Et alors, vas-y, parle.
Mais non, mais on pose une question à ton invité, puis là, tu ne veux pas qu'elle réponde.
Si, si.
Bon,
si,
qu'elle réponde. Si.
On veut ton avis.
À savoir si c'est plus difficile d'écrire pour un autre que d'écrire pour soi. J'ai l'impression que ça pourrait donner une certaine liberté, parce que peut-être qu'il y a des choses en tant qu'artiste qu'on est prêt à écrire, mais qu'on n'est peut-être pas prêt à interpréter
chanter.
Ou à endosser. Donc, ça permet justement d'aller dans d'autres chemins, mais je ne suis pas sûr que la question aurait dû s'adresser à moi tout d'abord.
Mais tu vois qu'il fallait que tu parles, parce que parfois, il t'arrive de dire des choses intelligentes. Donc, j'ai bien saisi le moment où la lueur était...
Statistiquement, il faut que ça arrive au moins une fois de temps en temps. Mais ton avis, bon. Géraldine, est-ce que tu penses que d'écrire pour d'autres, est-ce que plus contraignant ou plus libérateur, ou qu'il n'y aurait pas vraiment de différence?
Je sais pas. C'est une bonne question, en fait, mais je crois que vos deux perceptions de la chose sont intéressantes, et je crois que ça dépend de l'expérience de chacun, en fait. Mais ouais.
On va voir.
Oui, c'est ça.
Géraldine, on va faire une petite pause pour laisser le temps de te remettre. Et après, tu vas crouler sous toutes les questions que Jean-Sébastien a encore pour toi.
Bah, à tantôt, Jean-Sébastien, j'attends seul.
À tout de suite.
Écoutez Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Je voudrais te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret dans ce tour de moi pour décupler le massacre que tu fais. Mais je sais que tu sais que c'est comme ça. Condoléances à tous ceux qui sont comme moi. Je voudrais te parler de mes sentiments que j'éprouve.
Je voudrais habiter ta tête, mais...
On vient d'entendre Hubert Lenoir qui nous chantait Secret, mais ce qui n'est pas secret, mesdames, messieurs, c'est que Géraldine Saussier est toujours avec nous et qu'elle a pris sa guitare sur ses genoux. Je ne demande pas dans cette émission, non, je ne demande pas, je ne propose pas, j'exige. Voilà. Rien de moins. Et elle a dit oui. Donc Géraldine, avant que tu nous interprètes une première chanson, je voudrais qu'on parle, parce qu'on a parlé de l'album, maintenant j'ai envie de te dire le mot spectacle.
Oui!
Alors, qu'as-tu à nous dire là-dessus?
En fait, j'ai reçu une bourse du Conseil des arts du Canada pour...
Félicitations!
merci! Pour créer un spectacle poétique, interdisciplinaire. Donc, on va travailler avec mes chansons, mais aussi avec une metteur en scène et danseuse, Lauriane Langis, et des musiciens, ma foi, fabuleux. et on est aussi épaulé par Edgar Bory. Donc, en fait...
Bien!
Je suis bien contente. Donc, c'est ça. Tout cet été, on va travailler là-dessus. On va faire une première représentation, mais sous invitation à cause de la COVID. Là, on ne pourra pas faire un grand lancement à la fin août. Puis à la suite de ça, le désir, c'est vraiment de pouvoir le mettre dans des théâtres. Donc, c'est comme un spectacle de poésie théâtrale, si je peux me permettre. Là.
Oui, c'est quand tu parles d'Edgar Bory, c'est exactement ça qu'on imagine aussi. Oui. Toi, donc, ce serait bien. Et ça pourrait être sur des scènes de théâtre... n'importe lesquelles en même temps. Plus des petites salles?
Oui, j'aimerais bien faire des petites salles, mais aussi comme dans les cégeps, ou de rendre le but un peu de ce projet-là, je le voyais que c'était pour rendre la poésie plus accessible, donc à une population qui n'écoute pas ou ne lit pas nécessairement la poésie, parce que parfois c'est comme vu comme élitiste.
Parce que souvent, c'est juste le mot « poésie ». J'ai dit, est-ce que tu veux lire une poésie? T'as peur, tu sais? Mais en fait, quand tu lis des phrases, des mots, un beau texte, comme le slam, par exemple, quand on raconte une histoire où il y a plein de choses dedans, c'est extrêmement poétique, c'est beau et ça ne fait pas peur. Enfin, en tout cas, à ceux qui ont peur de la poésie, hein, j'entends, parce qu'il y en a qui n'ont pas peur du tout.
Mais c'est ça, fait que de l'amener à d'autres type de population, ça, j'aimerais beaucoup ça. Mais je crois que les gens ont peur parce que la poésie, on pense à Alexandrin, puis incompréhension, là, mais c'est plus ça maintenant.
Géraldine, parler de poésie, c'est comme quand on parle de tout. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Dès qu'on connaît, la peur n'est plus là. Donc, c'est exactement pareil. Donc, pour la poésie, ouvrez-en un jour un livre. Et puis, vous avez celui de Géraldine. Géraldine, elle a écrit... Un livre de poèmes qui s'appelle « Me déplier le cœur ». Et je peux vous dire que c'est super joli. J'aime beaucoup, moi. Voilà. Donc, si jamais dans la semaine, je le redirai. Si jamais il y a des gens qui appellent au studio, dont on peut donner le numéro, qui est le 514...
282-3472.
282-3472. Si vous l'entendez ou si vous l'entendez en balado plus tard et que vous voulez... vous voulez avoir ce livre, eh bien, c'est cadeau. Géraldine est venue avec un album et le livre. Voilà. Donc, vous n'aurez qu'à appeler à ce numéro. Je le redonnerai les autres jours aussi. Voilà. Donc, Géraldine, es-tu prête pour nous offrir quelque chose? D'abord, revenons au spectacle 2 minutes. Quel est le lien d'histoire dans ce spectacle?
En fait, c'est...
Qu'est-ce que ça raconte? Parce que je ne te l'ai pas demandé, excuse-moi.
Non, c'est bien. Ça va être basé sur justement mon recueil de poésie Me déplier le cœur et mon prochain qui s'en vient. Parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur un deuxième recueil.
On va en parler après la première chanson.
Parfait.
Parce que ça, je le garde un petit peu sous le coude, celle-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous offres? Parle-nous un petit peu de ta chanson avant de l'interpréter.
Oui, en fait, tantôt, je parlais d'une chanson un peu plus légère que j'avais écrite à l'école. Donc, ça s'appelle « On était ». Puis, en fait, c'est une chanson qui parle un peu du fait que des fois, on est mieux seul que mal accompagné. Puis, des fois, ça fait du bien du changement.
Tu dis une chanson légère, ça peut être triste aussi, hein?
Ah, mais elle n'est pas triste.
D'accord. Alors, on t'écoute, vas-y.
On était tricotés serrés, t'étais pas la cerise
sur mon Sunday. On était de l'amour en froc, enflammé dans le surgelé. On était tout mais pas grand chose, juste un sapin sans réveillon, un fruit sans floraison. L'amour en multitrac, bien tapé mais mal tuné. On était une chanson de Philippe Braque, mais nous la balloune nous a pété d'en face. On était tout mais pas grand chose, un sapin sans réveillon, un fruit sans floraison. Toi t'étais pas mon lover, bien brassé, mal distillé. Toi t'étais serré de ne pas grand chose, je m'ennuierai un jour, peut-être que je trouverai la cerise sur mes sunny days.
Bravo,
merci, merci.
Écoute, j'ai envie de vous dire à vous toutes et tous qui ne savez pas comment rompre, eh bien, ah, envoyez la chanson de Géraldine Saussier et ça, tout sera dit. Moi, j'ai adoré le sapin sans réveillon. Ça, c'était, ça fait partie aussi des choses qui m'ont beaucoup fait rire au milieu de tout le reste.
Une vraiment belle manipulation des mots. Vraiment,
ah, merci,
bravo.
Merci.
Je suis curieux, Géraldine. Moi, c'est surtout le domaine de la musique qui m'interpelle. Qu'est-ce que tu as écouté? Quelles ont été tes influences? Puis ça va être une question en deux plans aussi. Je vois que tu as fait des études en Écosse. Est-ce que l'Écosse a eu une influence musicale sur toi?
Oui, beaucoup en fait, parce que là-bas, c'est très populaire, les singer-songwriters, donc le folk. C'est là que j'ai découvert comme Joni Mitchell, Carole King. C'est, là-bas, il y a une grande culture où les gens, ils vont chanter des chansons avec leur guitare autour d'une bière dans le bar. Donc, à chaque soir, il y avait des spectacles à Édimbourg. Donc ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup inspiré, le folk, en fait.
Puis sinon, tes influences moins écossaises?
Mais Joni Mitchell n'est pas écossaise, mais c'était comme plus l'inspiration de la culture là-bas, tu sais, guitare-voix. Mais... Joni Mitchell, je pense que c'est vraiment ma queen. Là, je l'aime beaucoup.
Ta référence ultime,
oui,
on va dire.
Ça.
C'est ça? Oui.
Mais sinon, j'aime bien les Sœurs Boulay. Puis Anne Sylvestre.
Oh là là, mon Dieu, Anne Sylvestre. Il y a bien longtemps que je n'avais plus entendu ce nom-là.
Oui, elle est décédée.
Dis donc, elle chantait avant que tu sois née.
Oui, elle chantait avant que je sois née.
La musique, c'est intemporel,
Arlette. Oui, non, mais je sais. Excusez-moi. D'ailleurs, oui, Anne Sylvestre, grande chanteuse. Mais c'est parce que j'étais comme étonnée du nom que je n'attendais pas en fonction. Je m'attendais à quelque chose de plus récent. Mais c'est vrai qu'Anne Sylvestre, s'il y avait une très belle voix. Voilà.
J'aimais aussi bien ses textes.
Oui, elle avait des textes très... Oui, parce que tu es une femme de parole. Enfin,
oui,
t'aimes les textes, t'aimes les mots. Tu es une femme de mots, donc c'est agréable. Et de mots, M-O-T-S, hein, pas M-A-U-X. Je le signale. Alors, en parlant de mots, justement, parlons un petit peu de ce deuxième livre de poèmes que tu vas écrire. Alors, ce qui m'a interpellée surtout, c'est la... ça a été écrit, c'est sur des bases de témoignages, et pas n'importe quel témoignage, puisque ce sont des témoignages de femmes qui ont connu l'itinérance. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus.
En fait, c'est ça, c'est quand il y a eu la COVID, quand on a commencé la COVID, j'ai décidé d'écrire un recueil de poésie, un deuxième recueil, puis je faisais des ateliers avec des jeunes, en fait, je fais des ateliers encore avec des jeunes en situation d'itinérance. Puis je réalisais qu'en littérature, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont écrits sur l'itinérance chez les femmes, qui est vécue de façon très différente que l'itinérance chez les hommes. En fait, c'est une itinérance qui est très invisible, donc on ne la voit pas beaucoup. J'ai commencé à avoir des témoignages en mars dernier de femmes ou d'intervenantes, donc de personnes qui ont aidé ces femmes-là.
Est-ce que tu allais dans la rue avec les intervenants ou tu as bavardé avec des gens que tu as rencontrés? Comment ça s'est passé? Si je suis toujours surprise, ma question est là, c'est-à-dire où tu vas chercher tes informations?
En mars, c'était par téléphone, donc vu qu'il y avait la COVID, mais en automne prochain, donc en octobre, je m'en vais à une résidence au Château Landry, donc à Mont-Joli, pendant un mois pour travailler en fait avec trois organismes communautaires de Mont-Joli et pour prendre des entrevues avec différentes femmes qui ont vécu des situations précaires, donc la violence conjugale ou l'itinérance. Et je vais leur donner des ateliers d'écriture. Et mon recueil, en fait, va s'inspirer de ces ateliers-là. Donc, nos mots vont comme se marier ensemble. Et on va faire une petite prestation à la fin de mon mois avec les femmes où elles vont pouvoir venir lire leurs textes. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment une façon de donner à la communauté ou de porter une voix de femmes qu'on n'entend pas beaucoup parler ou qui sont invisibles.
Est-ce que tu as eu des belles rencontres, je veux dire des moments d'émotion ou des rencontres, tu sais, des moments où on parle à des gens qui sont dans l'itinérance en ayant dans notre inconscient, en tout cas moi ça m'est arrivé, alors des idées préconçues, même si elles n'étaient pas à même, et avoir une discussion avec quelqu'un qui a plein de choses à dire m'a comme surprise, alors que je ne devrais pas être surprise, parce que l'itinérance, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux te retrouver du jour au lendemain dans des situations bien, bien différentes de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui.
Mais effectivement, je trouve que plus je travaille avec ces gens-là, plus je réalise que ça pourrait être moi. Tu sais, on est tous du même monde, puis au fond, c'est comme la majorité, c'est un choix, tu sais, ou une situation qui s'est passée, puis finalement, il se ramasse dans la rue, mais tu sais, c'est... Oui, je pense qu'on a tous des idées préconçues par rapport à ça, puis au fond, je réalise
même inconsciente, même inconsciente. Oui. Je le répète, parce que des fois, on s'imagine pas qu'on est en train de penser. C'est quand je me rends compte que je suis surprise ou je me dis, mais alors, t'étais en train de penser que... Parce que, voilà.
On est tous pareils, en fait, je pense. C'est ça, pour moi, l'important, tu sais.
Est-ce que ce recueil que tu vas faire a déjà un titre?
Mais en ce moment, il y a un titre temporaire qui s'appelle Fragments d'elle, E-L-L-E-S.
Oh, c'est joli, ça.
Ouais. Merci.
Ah, c'est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, oui.
Je vais travailler également avec Bori pour ce recueil-là. Il va m'épauler là-dedans.
C'est merveilleux. Parce qu'en même temps, c'est un recueil sur les femmes qui font de l'itinérance, mais en même temps, ça va être bien parce que votre œil est différent à chacun.
Mm-hmm.
Et ça va donner sa couleur. C'est vraiment une super idée. Comment t'es venue cette idée d'ailleurs?
L'idée de travailler avec Bori?
Non, pas d'idée de travailler avec Bori, ça je le comprends aisément, mais l'idée d'aller à la rencontre des femmes itinérantes.
En fait, c'est ça, c'est vraiment quand j'ai commencé à donner des ateliers avec les jeunes en situation d'itinérance, de réaliser que, justement, on avait beaucoup d'idées préconçues par rapport à l'itinérance. Puis...
Qu'est-ce que tu as découvert auquel tu ne t'attendais pas, par exemple? Je te prends un petit peu au dépourvu, mais donne-moi un exemple d'une situation dans laquelle... tu sais, parce que quand on part à la rencontre de l'itinérance, on a quand même des idées un peu toutes faites, malgré qu'on on a l'esprit ouvert. Et qu'est-ce que tu as fait comme rencontre qui t'a étonnée, qui t'a surprise, qui t'a émerveillée, qui t'a...
Mais j'ai réalisé en fait que c'était beaucoup plus proche de moi que ce que je pensais. Donc, que c'était dans mes amis qui en avaient déjà vécu ou... C'est justement des choses que je savais pas, puis que c'est beaucoup plus... Tu sais, souvent, on dit « Ah, mais ça me concerne pas, ces choses-là », mais finalement, j'ai réalisé que oui, ça me concernait beaucoup plus que qu'est-ce que je pensais, puis qu'on est tous à risque de que ça peut nous arriver, cette situation-là. Fait qu'il faut être bienveillant envers ces autres personnes-là et doux envers ces personnes-là.
Oui, aussi, ça, c'est vrai. Et tu continues à donner des cours, alors j'ai vu que tu donnais des cours d'écriture?
Des ateliers d'écriture avec les jeunes en situation d'itinérance. Et justement, en fait, on crée un recueil de poésie. Donc, sûrement en décembre 2021, ils vont lancer un recueil de poésie, les jeunes.
Est-ce qu'ils sont d'accord pour ça ou envie d'écrire ou ils se découvrent? Il y en a certains qui doivent se découvrir à travers les mots.
En fait, c'est très touchant, les rencontres que j'ai... Il y en a certains qui faut un peu, tu sais, les pousser, allez, tu vas aimer ça. Puis après, il n'y a pas d'obligation, là, mais...
Non, mais il peut y avoir des découvertes.
Exactement. Ceux qui... Il y a deux personnes qui m'ont vraiment touchée parce qu'ils étaient plus réticents à venir à l'atelier. Finalement, ils ont écrit sur eux, puis ils ont... J'ai dit, est-ce que ça te tente de lire, partager tes écrits? Et ils ont dit oui, puis finalement... Ils ont lu leurs écrits, puis ils ont dit « C'est la première fois que je dis ça à voix haute à quelqu'un. J'avais jamais osé dire qu'est-ce que j'ai écrit, puis ça me fait du bien de le partager maintenant. »
Donc, cadeau!
Ouais.
Quel cadeau pour toi aussi!
C'est très
touchant. De recevoir ça.
Puis je crois que ça aide aussi, tu sais, de nommer les choses difficiles qu'ils ont vécues, de les nommer, ben ça les aide à pas les garder juste pour eux. Puis souvent, ils réalisent, quand ils partagent leurs écrits, qu'ils ont vécu beaucoup de choses similaires. Donc, ça brise la solitude aussi de partager ensemble via l'écriture.
C'est vrai. C'est magnifique. Alors, une autre chanson.
Oui!
Une autre! Comment on dit? Une autre! Voilà. Qu'est-ce que tu nous offres? Et j'aime bien que tu me racontes un petit peu quel est le thème de la chanson avant que tu la fasses.
En fait, c'est une chanson qui s'appelle « Si j'avais su », puis... C'est qu'en tant que femme, j'ai souvent eu l'impression qu'il fallait que je me taise pour pas déranger, puis qu'il fallait pas trop que je donne mon opinion pour plaire aux autres. Donc, j'ai écrit cette chanson.
On m'a dit de ne pas parler. Les filles doivent garder le silence, même si elles ont envie de crier. Si j'avais su, si j'avais pu, on m'a dit de tout donner, même mes rêves aux plus offrants. J'ai vécu en m'oubliant. Si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais pu m'inventer, bercer qui j'étais. J'aurais pu raconter ce que mon cœur révélait. On m'a dit de ne pas pleurer. Et sur mon dos de porter tout le poids de la balance. Si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais pu m'inventer, bercer qui j'étais. J'aurais pu raconter ce que mon cœur. Ce que mon cœur révélait, j'aimerais retrouver à quoi je veux ressembler et dans mes yeux me rencontrer. Un jour je saurai. Un jour je saurai. jour je serai.
Bravo. Merci, j'aime beaucoup ce que tu écris.
Merci.
T'as le don des mots, moi j'ai le plaisir des mots et Jean-Sébastien a la face illuminée, donc tout va bien.
C'est l'émotion.
Non mais je trouve que c'est très beau ce que tu écris. Dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais que tu me lises, parce que d'habitude je fais toujours une phrase finale avant de dire au revoir et tout, mais là j'aimerais que tu nous lises ce texte-là, « Ne me quitte pas, ne me quitte pas, Brel, tu sais qu'il ne me quittera pas
ah. ».
Et puis j'aimerais que tu me lises tout ce texte, voilà, un petit peu avant qu'on ait les mots de la fin.
Merci de me proposer cette lecture.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, Brel, tu sais qu'il ne me quittera pas. Je me noirai de make-up en quête d'un premier geste, de ta queue sur ma main tremblante. Dans tes pantalons, je deviendrai un nous. Je m'abriterai en silence dans tes draps Netflix and chill. Je te flatterai où tu veux. Tu seras mon Simba. Can you feel the love tonight dans tes boxeurs Louis Vuitton bandés entre mes doigts? Baby, baby, you will always be mine. Je te laisserai me doigter sur un banc de parc, te déposer doucement sur mon corps pour ne pas l'abîmer. Je nous lacérerai dans nos lacets pour que tu t'attaches à moi. Mais demain, m'aimeras-tu un peu?
Alors, la raison pour laquelle j'avais retrouvé ce texte-là, c'est que c'est quand je pense au féminisme, aux femmes, à tout ce que j'ai envie de leur dire... Faites attention parce que dans un couple, on est trois. On est chacun ce que l'on est et après, on s'amène à partager une partie de chacun de nous, mais on ne se noie pas dans l'autre. Et je trouvais que ce texte-là était vraiment celui qui allait pour faire cette déclaration-là.
Mais c'est bien vrai. Puis ça, je pense que je l'ai réalisé que quand j'étais plus jeune, je m'oubliais souvent dans mon couple.
Oui.
Mais il faut être... soi-même, puis s'aimer soi-même pour après être bien avec quelqu'un d'autre.
on peut accepter des tas de choses, y compris dans la sexualité, et non, le non existe aussi. Mm-hmm. C'est oui, et c'est non, et c'est partage. Et qui dit partage veut dire que c'est à deux. Voilà.
Ça me touche, qu'est-ce que tu dis.
C'est vraiment comme ça. Écoute, as-tu un petit mot de la fin? On est dans les deux dernières minutes de l'émission.
En fait, merci beaucoup.
Tu dis que ça t'a fait super plaisir de me revoir parce que moi, c'est
oui,
le cas.
C'est ça que j'allais dire, merci
et de
beaucoup.
Faire la connaissance de Jean-Sébastien.
Merci beaucoup de m'avoir rencontré. Puis comme je te disais plus tôt, je suis vraiment contente parce que quand il y a eu la première fois que je suis venue ici, c'était au tout début de la pandémie.
Juste avant.
Puis là, je reviens et il y a de l'espoir maintenant avec le déconfinement. Donc, je suis bien contente d'être venue et de partager des beaux moments avec toi. Merci.
Merci. Ben, nous, on est contents aussi de pas être seuls, de pas être seuls dans le studio parce que ça fait vachement du bien, je peux te dire, de pas avoir les gens au téléphone. Alors, merci à toutes et tous ceux qui nous ont écoutés puis qui sont restés avec nous. Donc, je répète son nom, Géraldine Saussier. Donc... L'album qu'elle avait déjà fait, ça s'appelle « Je veux la folie ». C'est beau, hein? et le petit livret de poèmes, c'est toi qui l'as, le texte, c'est...
« Me déplier le cœur ».«
Me déplier le cœur ». Et c'est ce qu'elle fait là-dedans. Jean-Sébastien La Liberté, merci beaucoup. T'as été génial. Je te le redirai pas deux fois, mais tu peux revenir.
Je l'ai d'enregistrer maintenant.
Il va se le passer en boucle. Vas-y, génial. Tu peux revenir en deuxième semaine. Merci beaucoup à toutes et tous. Et puis, on se revoit, on se réentend demain avec d'autres invités. Et merci, c'est le final des Faramineux.
Merci, bye.